France Inter.
Enquête de politique, chaque semaine, nous explorons une idée, une tendance, un mouvement politique, son histoire et son actualité, son poids sur nos consciences et dans nos débats.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Aujourd'hui, l'agrarisme ou le conservatisme rural.
La terre, elle, ne ment pas. Elle demeure votre recours. Elle est la patrie elle-même. Un champ qui tombe en friche, c'est une portion de France qui meurt. Une jachère de nouveau emblavée, c'est une portion de France qui renaît.
Si demain, le lait doit être rouge pour être vendu ou les pommes carrées, il faudra que l'Institut national de la recherche agronomique se consacre à cela pour que nous puissions fabriquer des produits qui se vendent.
Le monde rural, nos campagnes, nos racines, la terre de nos ancêtres, notre terre nourricière, nos territoires, nos terroirs, tout ce qui se rapporte à la terre et à l'agriculture est précédé, dans le débat politique, d'un pronom possessif qui souligne le caractère identitaire du sujet. L'agrarisme est un large mouvement, aujourd'hui méconnu, le terme agrarisme est méconnu, mais toujours présent, notamment dans cette opposition largement analysée, volontairement outrée et souvent instrumentalisée entre deux pôles, le monde rural et le monde citadin. Le premier serait celui du pays réel, comme disait Maurras, celui de l'authenticité, du concret, de l'origine, des vraies valeurs, du travail et de la constance. Le second, le monde citadin, serait celui de la superficialité, du déracinement, du hors-sol, du progressisme déconnecté. Ces affirmations héritées de l'agrarisme triomphant structurent toujours nos débats. Pourtant, une bonne partie de la campagne est devenue une industrie maintenant dépendante d'intrants chimiques, de pratiques qui n'ont rien d'ancestral, ni d'authentique, et même qui nient la supposée vérité de la nature. Mais l'opposition vrai rural versus faux citadin, si pratique, si simple, si binaire, est bien ancrée dans le propos quotidien des politiques. Il vient de loin, sa version moderne remonte à la Révolution, les contre révolutionnaires pour promouvoir le maintien de l'ordre ancien, ordre dit naturel, ont créé ce qui deviendra l'agrarisme. Ce mouvement enverra dans les différentes chambres des trois régimes, monarchie, empire, république du 19e siècle, une légion de parlementaires souvent issus de la noblesse, de ce que l'on appelait à l'époque le parti catholique. L'agrarisme, au fond, c'est l'histoire des origines et de l'évolution des dérives de cette controverse ville-campagne qui réapparaît et que nous allons explorer aujourd'hui avec deux historiens et quelques archives. Enquête d'agrarisme avec Gilles Richard, historien au CNRS à Rennes, président de la Société française d'histoire politique et auteur chez Perrin de l'histoire des droites en France de 1815 à nos jours. Nous le retrouverons dans la deuxième partie de l'émission, juste après la chronique livre d'Aurélie Marcirot. D'abord, nous accueillons David Bensoussan, professeur d'histoire en classe préparatoire littéraire à Rennes et auteur de Combat pour une Bretagne catholique et rurale chez Fayard, et apparaître prochainement une biographie d'Hervé de Guébriand, un personnage central de l'agrarisme que l'on va d'ailleurs évoquer avec nos invités. Merci à nos amis de France Bleu Armorique qui ont accueilli David Bensoussan dans leur studio et établi la liaison. David Bensoussan, de quand date le mot agrarisme et que recouvre-t-il au moment où il apparaît ?
On peut le faire entrer dans l'histoire dans la seconde moitié du 19e siècle, sans doute de manière assez nette dans le dernier tiers du 19e siècle, c'est-à-dire à un moment donné où la France s'engage à la fois dans la seconde révolution industrielle, où de pays rural qu'elle reste, elle reste néanmoins traversée par une dynamique d'urbanisation, et enfin dans une France qui est traversée par la question sociale, c'est-à-dire la question ouvrière. Donc on est dans ce contexte-là et on voit surgir un discours qui transforme la représentation du monde rural et paysan. Pendant longtemps, si on se rappelle un peu de la littérature du début du 19e siècle, autour d'un Balzac par exemple, le paysan, c'est la brutalité, c'est la sauvagerie, c'est une forme d'archaïsme. Et puis
oui,
tout d'un coup...
C'est rustre.
Voilà, tout à fait. C'est ça. Et c'est ce qui est dominant jusqu'au milieu du 19e siècle. Et puis tout d'un coup, on voit surgir d'introduire d'autres représentations, en tout cas sur le plan idéologique, qui fait du paysan et du monde rural le conservatoire des valeurs que justement un certain nombre d'élites sociales voient disparaître du fait de l'urbanisation, de l'industrialisation, de l'ouvriérisation, si j'ose dire, de la société. Donc il y a une sorte de réaction où on va commencer à vanter le monde rural comme le conservatoire de l'harmonie naturelle du monde autour de la terre et du paysan, autour de l'ordre éternel des champs, du fait de sa relation à la terre qui est le fruit de la création divine. Donc il y a tout ce discours qui surgit à ce moment-là et qui décline ce qu'on pourrait appeler un agrarisme très conservateur, pour ne pas dire réactionnaire.
Oui, réactionnaire, le mot est intéressant parce que c'est évidemment, quand on parle de réactionnaire, la réaction s'agissant évidemment de la révolution. Et dans l'agrarisme, est-ce qu'il y a aussi un aspect conservatisme social, c'est-à-dire le monde agricole est largement organisé autour des propriétaires, des métayers et puis des ouvriers. Est-ce qu'il y a cette idée qu'il faut aussi rester dans cet ordre social ?
Tout à fait. Il y a une vraie dimension conservatrice qui émane des élites sociales qui appartiennent souvent à la grande noblesse, à la grande aristocratie foncière et qui, justement, entend mettre sur pied une stratégie d'encadrement du monde rural, justement. À un moment donné où elle a le sentiment que la modernité à la fois politique, liée à la Révolution et liée à la Troisième République, mais aussi la modernité économique avec l'industrialisation est en train d'effriter voire de saper les bases du monde dans lequel elle inscrit son autorité sociale.
Et donc il s'agit d'organiser la profession en une sorte de corporatisme, ce qui va à l'encontre du mouvement post-révolutionnaire.
Tout à fait. Il y a cette dynamique-là de corporatisme, d'encadrement des populations rurales autour de l'associationnisme agraire qui connaît un vrai élan à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle.
Qui sont les grandes figures de l'agrarisme à ce moment-là ?
Alors, elles se construisent à la fois donc autour de la Société des agriculteurs de France, qui est née en 1867 sous le Second Empire. On appelle ça le syndicalisme des marquis. Vous comprenez bien que cette organisation est peuplée d'aristocrates. La figure emblématique à ce moment-là, parce que c'est lui qui préside la Société des agriculteurs de France, c'est le marquis de Vauguet. Et puis, dans une région comme la Bretagne, ça va être très tôt, par exemple, le comte Hervé de Guébriand. Mais enfin, c'est un petit peu plus tardif, ça nous ramène au début du XXe siècle, voire dans l'entre-deux-guerres. Mais alors, ce sont pour l'essentiel des figures aristocratiques.
Justement, David Bensoussan, il y a un texte que vous nous avez fourni d'Hervé de Guébriand qui exprime pas mal l'ordre social dont vous venez de nous parler et qu'il souhaite conserver. Franck Olivard nous en fait la lecture.
Les uns apportent les capitaux qu'il faut faire fructifier, d'autres se font les agents techniques de l'utilisation de ces capitaux. Il en est enfin qui mettent au service de la production le travail rémunéré de leurs bras. Quels sont en agriculture ces divers agents de la profession ? Ce sont les propriétaires du sol, les fermiers ou les métayers, les ouvriers agricoles. La caractéristique de notre profession est que souvent le même individu appartient à deux de ces catégories, sinon aux trois à la fois. Quant à ceux qui, disposant de plus en plus de temps, plus ou moins libérés des soucis matériels de l'existence, peuvent donner davantage, ils n'ont pas le droit de se désintéresser des choses de la profession dont ils vivent ou de s'en occuper pour leur seul profit personnel.
Donc c'est un texte, merci Franck Olivard, c'est un texte qui date d'août 1922 d'Hervé de Guébriand. Comment vous pouvez nous le commenter, David Bensoussan ? Là, on a vraiment l'ordre social ancien qui est réaffirmé.
Tout à fait. Et à partir du début des années 20, Hervé de Guébriand va devenir une des figures référentielles de l'agrarisme, une des figures les plus importantes qui se construit notamment autour du succès de l'Office central de Landerneau qui devient une des plus grandes coopératives agricoles du pays. Alors, il y a une chose qu'il faut prendre en compte dans le discours d'Hervé de Guébriand, donc on se trouve ici dans le Léon ou plus largement dans le Finistère et plus largement encore en Bretagne, c'est-à-dire dans une région... Voilà, dans une région très catholique. Donc il y a l'inspiration ici très forte d'un catholicisme social qui irrigue la pensée d'Hervé de Guébriand. Oui, on est dans cette difficulté pour les grands propriétaires fonciers qui prétendent diriger les paysans dans leur engagement syndical, mais qui ne sont pas eux-mêmes des exploitants. Hein. Ils ne travaillent pas la terre de leurs mains. Donc il y a un souci de légitimité. Et cette légitimité...
Oui, il ne faut pas être trop oisif non plus. C'est pas des rentiers.
Tout à fait. Cette légitimité, elle se justifie justement à travers une vision très morale, très idéologique du monde rural, de l'harmonie naturelle. Hein, le terme revient souvent, l'harmonie naturelle.
Chacun à sa place.
Exactement. Chacun à sa place. Et c'est dans ce « à chacun à sa place » que peut se légitimer le rôle directeur, on pourrait le dire comme ça, le rôle directeur de l'aristocratie foncière, en la figure par exemple d'Hervé de Guébriand, qui est une des plus grandes figures nobilières du Léon de ce moment-là, mais qui entend bien signifier à la paysannerie. Donc, on sent bien qu'il y a quand même une volonté de justification, de légitimation de son rôle par, justement, par le temps et la culture. J'entends par là il est ingénieur agronome, donc les connaissances qu'il possède et qu'il entend mettre au service de la communauté.
Quel était le poids, David Bensoussan, des représentants de l'agrarisme à Paris ou dans les instances politiques, au Parlement? Est-ce qu'ils étaient monarchistes encore?
Jusqu'à la veille de la Grande Guerre, il y a une composante monarchiste qui reste souvent sympathisante d'Action française, qui reste encore assez importante, mais elle va se diluer, si je puis dire, après la Grande Guerre, où la République en tant que régime, en tout cas dans les années 20, n'est plus vraiment remise en cause. Ces milieux agrariens s'opposent sur le fond au modèle démocratique et parlementaire. C'est pas leur modèle politique.
J'ose le dire, celui qui n'aime pas la terre, celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue, celui-là ne comprend pas la richesse des nations. Car l'agriculture, messieurs, vers nous tous dans ses bras généreux, pour nous tous en semences et récoltes, face aux travaux des champs, il n'est plus patron ni ouvrier. Il n'est plus que l'homme qui voit ainsi son destin grandir.
Enquête de politique et aujourd'hui enquête d'agrarisme, ce grand mouvement méconnu du 19e et du début du 20e siècle qui a contribué à forger cette opposition symbolique entre les villes et les campagnes, le monde rural et le monde citadin. Une fracture que l'on voit renaître aujourd'hui dans certains discours conservateurs ou plutôt réactionnaires. Nous en faisons l'histoire avec deux historiens et nous sommes toujours pour l'instant avec David Bensoussan. Alors, il y a un discours, le discours de Rémy Gousseau, lors du congrès à Caen de l'UNSA. Parlez-nous de l'UNSA, syndicat agricole.
L'UNSA, c'est le fruit de la transformation de l'Union centrale des syndicats agricoles et qui, en 1934, donc au moment où la France est plongée dans une crise politique, économique, qui devient presque une crise institutionnelle, l'UCSA se transforme en Union nationale des syndicats agricoles et c'est le témoignage à la fois d'une sorte de radicalisation politique et c'est le témoignage d'une volonté d'engager les paysans dans un processus de radicalisation à l'égard de la République parlementaire. Et Rémy Gousseau est un de ses dirigeants de l'Union nationale des syndicats agricoles.
Je voulais revenir sur ce discours en 1937 de Rémy Gousseau. Il faut dire qu'on a cherché des archives sonores, il y en a très peu, il y en a même quasiment pas, pour illustrer ce mouvement important et assez peu connu. Et en 1937, alors je vous lis cette phrase, elle est politiquement très significative, de Rémy Gousseau lors de ce congrès de l'UNSA, « La masse paysanne, dit-il, la masse est bien la source de la France éternelle, la source qui renouvelle par un apport social incessant toutes les couches de la population, la source de ces vertus mélangées de notre race qui étonne le monde. Sens de la mesure, goût du risque, amour du petit et du grand, de l'économie et de l'aventure, du jardinage et de la colonisation, de l'ouvrage bien fait et du débrouillage, de l'ordre et de la fronde, de l'organisation et de l'indépendance. C'est un discours pré-pétainiste.
Oui, de toute façon, l'UNSA, enfin en tout cas c'est principales figures s'inscrivent déjà dans l'imaginaire, si je puis dire, de la Révolution nationale. Ce qui est intéressant dans le discours de Rémy Gousseau, qu'il faut bien penser dans l'année 1937, l'année où l'UNSA, dans le contexte des lendemains de l'élection du Front populaire, entend constituer une force de résistance, justement, au Front populaire, et où elle entend engager la paysannerie dans ce combat. Et ce qui est intéressant dans le discours de Rémy Gousseau, c'est que par rapport à ce qu'on pouvait entendre dans le discours agrarien précédent, où on valorisait surtout la terre. Là, on voit bien que ce qui est valorisé encore plus que la terre, c'est le paysan comme socle de la nation, le paysan qui fait toute la richesse du pays.
Qui est la source de la France.
Voilà, qui est la source de la France, c'est parce que désormais, éternel, on est dans une loga, on est dans un langage de mobilisation, hein, où il faut donc faire appel à la masse paysanne pour qu'elle pèse sur le plan politique, pour qu'elle puisse permettre la réalisation d'un projet politique spécifique autour du corporatisme. Donc, on est passé d'un discours de la terre et de ses valeurs à un discours du paysan et de ses valeurs. Et c'est pas anodin, on est aussi en plein moment de l'essor du dorgérisme, de l'essor de la contestation paysanne. Et
dorgérisme, dorgère, qui est dorgère ?
Alors Dorgère, c'est un personnage vraiment très très intéressant, auquel l'historien américain Robert Paxton a consacré un ouvrage. Dorgère, c'est à l'origine un journaliste qui dirige, à la fin des années 20, un petit journal agricole qui s'appelle Le Progrès Agricole de l'Ouest, qui va se servir de ce médium pour populariser son action contre les assurances sociales, et à partir de là, contre l'étatisme, contre la mainmise de l'État.
La bureaucratie.
Voilà, on retrouve une dénonciation des fonctionnaires, une dénonciation de l'emprise de l'État. Là, ça nous ramène aussi à des sortes de réactions un peu viscérales qu'on peut trouver dans le monde rural et paysan.
Ou commerçant dans le poujadisme quelques décennies après. Oui.
Tout à fait, qu'on retrouvera. Et d'ailleurs, Dorgère fera un petit bout de chemin petit avec Poujade dans les années 50. Alors, il lui faut à la fois se démarquer des grands notables agrariens pour pouvoir construire son discours et son entreprise politique, si je puis dire, sur la vitalité et la force de la petite paysannerie. Et il joue cette carte vraiment à fond.
Oui, là, on n'est plus dans l'ordre ancien avec les nobles qui veulent garder les structures d'avant.
Voilà, donc on a une petite distinction avec l'agrarisme des grands notables agrariens, mais les deux vont se retrouver sans difficulté au sein de la corporation paysanne. Et en tout cas, Dorgère participe à l'affirmation d'une véritable contestation paysanne d'ampleur.
Des chemises vertes.
Voilà, des chemises vertes autour de l'action directe, n'hésitant pas à payer de sa personne, à faire le coup de poing, et puis avec une légitimation de la violence physique à l'encontre des adversaires supposés de la paysannerie. Alors là, on est aussi, vous l'avez compris, dans le contexte des années 30 et donc d'une polarisation extrêmement forte du champ politique français. Oui, alors là, évidemment, le terme chemise verte ferait plus facilement référence
aux chemises noires de Mussolini. C'était un admirateur de Mussolini, d'ailleurs. Il voulait qu'en France soit réalisée la politique agricole que Mussolini tentait de mettre en Italie.
Oui, alors il y a cette tentation d'un régime fort, d'une autorité.
Mais ce n'est pas un fasciste.
Alors c'est le débat sur le fascisme français, c'est un débat très complexe. Je vois surtout Dorgère, j'allais dire, comme quelqu'un qui essaye de construire son entreprise politique pour lui permettre d'avoir un rôle éminent dans le champ politique.
Enquête de politique sur l'agrarisme. Vous ne connaissez pas ce mot, c'est normal. C'est le nom d'un mouvement de fond qui a disparu, mais qui est à l'origine de bien des concepts, de bien des réflexes dans nos débats d'aujourd'hui. Enquête d'agrarisme, aujourd'hui à la technique Benjamin Troncin, à la réalisation Christophe Imbert, aux archives sonores Franck Olivard, programmation musicale Thierry Dupin. On retrouve l'historien de l'agrarisme, David Bensoussan. Finalement, l'agrarisme tel que vous venez de nous le décrire, l'agrarisme des années 30 en tout cas, David Bensoussan, on le retrouve au pouvoir avec l'État français du maréchal Pétain. Et je vous propose d'écouter ce discours très connu du 25 juin 40, le maréchal Pétain.
Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal. La terre, elle, ne ment pas. Elle demeure votre recours. Elle est la patrie elle-même. Un champ qui tombe en friche, c'est une portion de France qui meurt. Une jachère de nouveau emblavée, c'est une portion de France qui renaît. N'espérez pas trop de l'État. Il ne peut donner que ce qu'il reçoit.
Voilà, la terre ne ment pas, je hais ces mensonges qui nous ont fait tant de mal. Les punchlines, on dirait aujourd'hui, écrits par Emmanuel Berne, la plume du maréchal Pétain à l'époque. On est exactement, David Bensoussan, dans l'agrarisme que vous venez de nous décrire.
Oui, on est dans cet agrarisme. Le maréchal Pétain aussi mobilise, j'allais dire, un imaginaire qui finalement est susceptible de parler à tous les Français. Cet imaginaire agrarien, parce que il a été très largement développé dès la fin du 19e siècle, aussi bien par les milieux conservateurs que par les milieux républicains.
Oui, parce qu'on est un pays agricole, on a tous des grands-parents ou des arrière-grands-parents paysans.
Tout à fait. C'est ce discours qui a été
inlassablement
tout à fait répété, la France, par rapport à ses voisins qui se sont industrialisés de manière très rapide, l'Allemagne ou l'Angleterre. La France est restée un pays majoritairement rural jusqu'au milieu des années 1930.
Il y a même, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, « N'attendez pas tout de l'État ».
Oui, le « n'attendez pas tout de l'État », c'est plutôt le contexte.
25 oui, là, je peux pas grand-chose pour vous.
Ouais, voilà. Mais on est tout à fait dans la thématique agrarienne. Vous remarquerez que dans son discours, ce n'est pas tant le paysan qui surgit que la terre. La terre comme conservatoire des vraies valeurs, hein, des valeurs d'ordre, notamment.
Oui, il oppose les mensonges. Voilà. Les mensonges du Front Populaire, il parle plus tard, bien sûr, de la jouissance. La France qui s'amusait ou qui partait en vacances, les congés payés, pendant
la France urbaine, la France ouvrière. Voilà. On est tout à fait
à la vérité de la terre.
Voilà, cette altérité, cette opposition qui structure le discours agrarien.
Alors, est-ce que je peux vous demander, vous êtes historien, mais vous êtes quand même, comme tous les historiens, vous vivez dans la société d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette espèce de discours ambiant sur il y a deux France, la France rurale et la France urbaine, la France urbaine qui veut aller très vite sur les questions de société, les questions sociétales, comme on dit maintenant, et la France rurale qui serait plus conservatrice, raisonnable et qu'il ne faudrait pas brusquer. Est-ce que vous retrouvez des échos de cette époque ? On saute des décennies, là.
Voilà, et c'est ça. Et le souci de l'historien, son métier, c'est la contextualisation. Donc,
c'est ce que je vous demande.
Voilà. L'imaginaire agrarien, il a quand même baigné la société française et il s'est transmis en termes de représentation dans l'imaginaire de nombreux Français encore aujourd'hui, même s'il ne faut pas nier évidemment les phénomènes de décrochage qui sont liés au fait qu'on est dans une société désormais urbaine, tertiarisée. Voilà. Mais malgré tout, cet imaginaire, ce référentiel continue de parler aux Français et autour de la défense de la ruralité.
On va se ressourcer à la campagne.
Voilà. Tout à fait. Autour de la défense de la ruralité qu'on entend, je prendrai l'exemple, par exemple, autour de l'enjeu de la chasse, où on oppose la ruralité, la vraie ruralité aux écologistes bobos opposés à la chasse. Hein,
ou aux néo-ruraux qui sont en fait des citadins qui viennent s'encanailler à la campagne.
Oui, oui. Dans la défense de la ruralité, on entend des accents, je veux dire ça comme ça, voire des thématiques agrariennes ou néo-agrariennes qui sont liées à cet imaginaire que j'évoquais tout à l'heure. C'est incontestable.
On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. On dirait que ça te gêne de marcher. chaque fois que je m'arrête dans le Loir-et-Cher, ils me laissent plus partir de chez eux. Je leur dis qu'il faut que je rentre sur Paris, que je ne fais pas toujours ce que je veux, et qu'il faut que je trouve encore un peu d'essence, que j'ai pas le temps de finir ma bière, que je reviendrai un de ces dimanches passer la nuit dans le Loir-et-Cher.
Michel Delpech, bien sûr, le Loir-et-Cher.
France Inter. En quête de politique. Thomas Legrand.
Et c'est l'heure du livre d'Aurélie Marciro. Bonjour Aurélie.
Bonjour Thomas.
Aurélie, avec vous, on quitte la campagne et on monte à la ville. On quitte le 19e siècle et le 20e siècle pour le monde contemporain, la ville d'aujourd'hui et de demain, l'agriculture citadine, avec « Sous les pavés, la terre » de Flaminia Padeu, sorti au Seuil en 2022.
Oui, le sous-titre est ici important, agriculture urbaine et résistance dans les métropoles. Flaminia Padeu est géographe, maîtresse de conférences à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Ses recherches portent sur les enjeux sociaux et écologiques de l'agriculture urbaine. Alors, l'agriculture urbaine, c'est le développement, la fabrication, la distribution de denrées alimentaires issues de la culture et de l'élevage dans et autour des villes, un sujet que l'on connaît finalement assez peu. Alors, ce livre, Thomas, vous n'allez pas l'emmener à la plage, hein, c'est un vrai travail universitaire de plus de 400 pages. L'enquête porte sur trois zones, le Grand Paris, New York et Détroit, et elle part du constat effectué pendant la pandémie. Les villes sont totalement dépendantes des campagnes. Alors, selon vous, Thomas, combien de jours d'autonomie pour Paris, par exemple?
Ça doit dépendre de ce qu'on a dans le frigidaire, je sais pas, 2-3 jours.
Alors, en cas de rupture totale d'approvisionnement, 3 jours d'autonomie seulement. Pendant le Covid, on a vu également l'augmentation des demandes de paniers commandés dans les AMAP. Bref, une demande d'agriculture de proximité. Alors certes, on ne va pas nourrir le Grand Paris ou New York avec l'agriculture urbaine, mais c'est un enjeu et pas que pour la consommation. La ville peut constituer, selon l'auteur, un terrain d'expérimentation pour des systèmes alternatifs et pour transformer l'écologie, pas en concurrence, mais alliée de l'agriculture rurale alternative.
Et où trouve-t-on le plus d'agriculture urbaine ?
Eh bien, elle est plus importante dans les suds que dans les nords, comme l'écrit la géographe, mais elle y revient après 150 ans de déclin. Exemple, entre 1859 et 1969, Paris et son département sont passés de 1804 à 626 maraîchers, en particulier, je cite, sous la pression de la construction immobilière et des parcs publics.
Et qui sont les agriculteurs urbains ? Il faut sortir peut-être du cliché bobo ?
Eh bien, justement, on trouve toutes les origines sociales, plutôt des femmes dans les jardins partagés, les hommes dans les jardins ouvriers, mais il y a peu de choses en commun entre la start-up qui cultive sur les rooftops grâce à la tech et le jardin en bas de l'immeuble de banlieue. Et pour que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre et que cette agriculture se développe, c'est bien sûr une question
politique.
Et oui, comme toujours, la mise en place de ce nouveau modèle agricole nécessite une lutte, une action collective pour contrer les ravages écologiques et climatiques. Je postule, écrit l'auteur, que la disparition de l'agriculture urbaine au milieu du 19e siècle jusqu'à l'après-guerre est l'un des effets de l'avènement de l'Anthropocène. Que son retour à la fin du XXe siècle représente une forme de résistance à l'agir anthropocénique et que son déploiement au tournant du XXIe siècle révèle les contradictions de ces tentatives de dépassement. On le voit bien, la Terre est toujours un enjeu politique.
Sous les pavés, la Terre de Flaminia Padeu, sortie au Seuil en 2022. Merci Aurélie. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Thomas.
Un autre livre, un best-seller maintenant de Jean d'Ormesson. Je vous propose d'écouter un extrait de l'adaptation de Au plaisir de Dieu pour TF1 en 1977 pour lancer notre second invité, Gilles Richard, historien, spécialiste des droites.
C'est vraiment une propriété merveilleuse. Quels arbres magnifiques.
Mais tenez, celui-ci est presque 3 fois séculaire. Et il n'a jamais changé de maître.
Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore de faucheuse ? Cela épargnerait du temps et de la peine à vos jardiniers.
Vous savez que mon père n'a pas beaucoup de goût pour le modernisme.
Mais je sais ce que vous allez me dire. Un seul homme avec un cheval et une faucheuse ferait en une journée autant de travail que ces cinq-là en feront en deux jours, n'est-ce pas ? Et moi, je vous demande, que feront les quatre autres pendant ce temps ?
C'est pas le travail qui manque en France.
Si je mécanise ma culture, des dizaines de paysans vont être contraints d'aller chercher du travail ailleurs. Je sais, vous les embrocherez dans vos usines pour fabriquer de nouvelles machines toujours plus grosses et toujours plus nombreuses. Vous, vous gagnerez beaucoup d'argent, mais je ne suis pas certain que mes jardiniers, devenus vos ouvriers, seront beaucoup plus heureux.
Voilà, deux systèmes discutent, un système ancien de domination avec la noblesse et puis la bourgeoisie. Gilles Richard, là, deux mondes se frottent.
L'analyse est tout à fait juste, hein, c'est-à-dire que la France a connu un exode rural continu, lent mais continu, depuis la monarchie de Juillet. C'est sous la monarchie de Juillet que les campagnes ont atteint en France leur niveau de population en nombre absolu, hein, j'entends dans les communes, le plus élevé, dans les années 1830-1850. Ensuite, ce nombre décline, mais décline avant tout la catégorie des ouvriers agricoles. Car les petits propriétaires, eux, ceux qui sont petits propriétaires grâce à la Révolution française, ont pu résister à la prolétarisation parce qu'ils étaient défendus par deux forces politiques opposées, d'une certaine manière. Précisément, ces nobles légitimistes et liés au clergé catholique traditionnaliste qui tenaient à garder du monde dans les campagnes.
Leurs gens.
Leurs gens, voilà. Mais aussi protégés par le parti radical.
Oui, le parti de la République.
Le parti socialiste qui représente le progrès, précisément, et qui représente aussi la volonté de ces petits paysans de ne plus dépendre des grands propriétaires aristocrates. Voilà. Donc le combat des blancs et des bleus, en fait, c'est la poursuite de la révolution dans les campagnes et c'est aussi la poursuite de la révolution dans le rapport avec la religion.
Là, on va passer à l'après-guerre et je voudrais que vous nous expliquiez que devient ce mouvement agrarisme après la guerre, la libération, alors qu'il faut reconstruire la France, la nourrir à nouveau.
Au départ, les corporatistes sont naturellement totalement discrédités et à la Libération, c'est un ministre socialiste, Tanguy Prigent, qui est à l'agriculture, hein, qui tient l'agriculture.
Là, il n'y a plus ce que vous nous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire d'un côté les nobles et l'ordre ancien et de l'autre côté les radicaux.
Voilà. Et la corporation paysanne a été supprimée dès 1944, enfin, dès que la France est libérée, fin 44. La corporation est discréditée parce que, en fait, cette corporation paysanne mise en place par Vichy, elle a surtout servi pendant la guerre à organiser, à administrer les prélèvements à destination de l'occupant.
Nous sommes toujours avec l'historien Gilles Richard.
La FNSEA, nouveau syndicat qui se crée en 1946, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, qui est en fait la reprise de l'ancienne UNSA, de Leroy Ladurie, l'Union nationale des syndicats agricoles. Cette FNSEA va bientôt prendre le dessus et imposer son point de vue sur l'évolution de l'agriculture. Et c'est intéressant de noter que celui qui est le secrétaire général de la FNSEA, c'est René Blondel, qui est un ancien dirigeant de la corporation agricole sous Vichy et un ancien membre du Conseil national désigné par le maréchal en 1941. Et là, on voit bien qu'il y a continuité du personnel.
La FNSEA, vous nous dites, Gilles Richard, ça va fâcher du monde, certains de nos auditeurs peut-être, est issu de ce monde-là et presque de la collaboration. On pourrait dire ça comme ça ou c'est exagéré ?
Issu de la collaboration, non, elle est issue du syndicalisme agricole, donc le syndicalisme qui était tenu par la vieille aristocratie légitimiste et catholique d'avant 14, de l'entre-deux-guerres et qui a continué pendant la guerre. René Blondel, qui est né en 1907, c'est un ingénieur au départ, mais fils de paysan, mais il achète au début des années 30, il profite de la crise et il se constitue un grand domaine dans l'Aisne de 175 hectares sur lequel il cultive de la betterave à sucre essentiellement. Il crée le premier syndicat de betteraviers dans l'Aisne et il en devient le secrétaire à l'échelle du département. Et en mars 38, il est intégré dans ce grand syndicat de Leroy Ladurie et de Guébriand. brillant qui s'appelle l'Union nationale des syndicats agricoles. Et c'est cette Union nationale des syndicats agricoles qui, après-guerre, devient la FNSEA. Et il se trouve qu'on retrouve dedans Blondel, puisque Blondel a été aussi à la corporation, il a été au Conseil national, et après-guerre, il devient secrétaire général, puis président de la FNSEA.
Alors pourtant, la FNSEA, quand on observe ses actions depuis quelques décennies, la FNSEA est présentée toujours comme l'organisation qui a accompagné l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture française, un peu à rebours quand même des idées que pouvait professer cette noblesse dont vous nous parliez. On est passé d'une agriculture traditionnelle avec un ordre traditionnel ancien à une agriculture industrialisée, capitalistique.
Oui, ce René Blondel n'est plus un corporatiste à l'ancienne après-guerre, car les êtres humains évoluent, y compris d'ailleurs le comte de Guébriant.
Les conservateurs, Gilles Richard, changent de casquette. C'est plus l'ordre ancien, c'est le monde nouveau capitaliste.
Oui, puisque Blondel est lui-même un gros agriculteur, un betteravier, comme on dit encore aujourd'hui, hein, symbole de cette agriculture liée au monde industriel. Mais Blondel continue de lutter, et il est membre du Parti Paysan hein, en même temps, et il devient sénateur d'ailleurs en 1955, il est resté sénateur jusqu'en 71. Il est partisan d'une agriculture dans laquelle il y aura encore beaucoup de petits paysans. Il lutte pour protéger cette masse de petits paysans autour de la question de la garantie des prix agricoles. Des prix agricoles qui, eux, ont tendance à baisser par rapport aux prix industriels depuis les années 50, puisque le gouvernement contrôle les prix et les gouvernements successifs tiennent à ce que l'alimentation ne soit pas trop chère, de façon à pouvoir tenir en main l'ennemi principal, qui est le monde ouvrier encadré par le Parti communiste et la CGT. Les choses vont changer quand, en 1958, toute une masse de jeunes paysans qui ont été formés à la JAC, hein, à la jeunesse agricole catholique, quand la direction de la JAC va décider d'investir le CNJA, la branche jeune de la FNSEA. Ce sont ces jeunes qui viennent du MRP et du monde catholique, non pas traditionnaliste mais démocrate chrétien, qui, dans les années 60, prennent la main sur la FNSEA et marginalisent les Blondel et autres. Et ces jeunes vont ensuite, comme De Baptiste, se rapprocher des gaullistes qui sont au pouvoir. Hein, voilà. Et donc, eux, ils sont pour la modernisation et l'industrialisation de l'agriculture. Et ils poussent les vieux et ils acceptent donc une accélération de l'exode rural.
Et alors là, on va voir, Gilles Richard, à quel point on a quand même changé de culture. En écoutant le ministre du Général de Gaulle, Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture, nous parler de ce que devrait faire et de ce que pourrait faire l'agriculture française.
Si demain, le lait doit être rouge pour être vendu ou les pommes carrées, il faudra que l'Institut national de la recherche agronomique se consacre à cela pour que nous puissions fabriquer des produits qui se vendent. Dans un marché ouvert, seul le client commande. L'intérêt de l'agriculture est de le comprendre.
Là, Gilles Richard, on est plus dans l'agriculture traditionnelle à la papa ou à la grand-papa, à la Jean-d'Ormesson, comme on a entendu tout à l'heure. On est vraiment dans l'espèce de fantasme de la toute-puissance industrielle de l'agriculture française.
Oui, tout à fait. C'est l'excès inverse du corporatisme réactionnaire du 19e siècle, hein, qui, là, pour le coup, n'est pas soutenu par la petite paysannerie, y compris celle qui vient du CNJA et qui a pris en main la FNSEA.
Je souligne quand même que Edgar Pisani, dans les années 90, une fois qu'il a pris sa retraite et qu'il a beaucoup réfléchi, est revenu sur ses déclarations et les trouvait horribles. Il est devenu d'ailleurs écologiste à la fin de sa vie. Voilà, c'était une petite parenthèse qu'il fallait souligner.
Peut venir avec l'âge.
Voilà. L'agriculture française n'est plus encadrée par l'agrarisme à ce moment-là. Ou alors c'est l'agrarisme qui change de forme.
C'est l'agrarisme qui change de forme car la FNSEA maintient un mode d'organisation qui encadre les paysans, qui les tient par tous les côtés, hein, puisque ce sont les mêmes cadres de la FNSEA qui tiennent les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER, qui tiennent différentes structures coopératives.
Oui, pour l'approvisionnement,
vont investir
les engrais,
dans les usines d'engrais et autres. Et on a d'ailleurs aujourd'hui des dirigeants de la FNSEA qui sont membres de coopératives devenues des multinationales.
Enquête de politique, si vous avez loupé le début de cette émission, pas de problème. Vous pouvez vous rattraper, surtout que l'agrarisme est quand même un courant peu connu. Rediffusion tous les dimanches soirs à 23h. Et puis là, si vous vous endormez, on a encore une solution. Il vous reste le podcast quand vous voulez sur l'appli Radio France ou la page d'enquête de politique sur le site de France Inter. Voilà, vous n'avez pas d'excuses. On retrouve l'historien Gilles Richard avec qui nous explorons l'agrarisme. On avance dans le temps. Voilà que l'agrarisme accompagne maintenant l'industrialisation. Un corporatisme qui s'est industrialisé et finalement qui a un peu perdu de ce qui pouvait faire une partie de l'âme, le côté territoire, nature, vérité des choses qui pouvaient être mal utilisées ou utilisées de façon réactionnaire, mais qui faisait partie de l'âme française, ça s'est perdu, le côté un peu environnement. Du coup, est apparu une autre forme d'agrarisme, un agrarisme qu'on pourrait qualifier d'écologiste. Les écologistes, certains, peut-être le discours de José Bové dans les années 90, pouvaient reprendre certains aspects de l'agrarisme, ou ça serait exagéré de dire ça?
Alors, si on prend agrarisme comme courant politique, comme famille politique, elle est du côté des droites, ce qui n'est pas le cas de José Bové.
Non.
Pour comprendre en fait cette grande mutation, hein, on a parlé de René Blondel, qui est l'homme qui assure le passage de la corporation, enfin du corporatisme agrarien d'avant-guerre à la FNSEA modernisatrice. Mais il y a un autre homme qui symbolise une autre voie possible, c'est Bernard Lambert, qui est député MRP de la Loire Atlantique de 58 à 62. Bernard Lambert est transformé par son expérience en mai 68, hein, quand les paysans participent au mouvement de 68 de solidarité de la paysannerie, des petits paysans, avec les grévistes. Il se sépare en fait de cette agriculture industrialisée à outrance représentée par la FNSEA et il crée un livre en 70 qui s'appelle « Les paysans dans la lutte des classes », qui est d'ailleurs préfacé par Michel Rocard. Et c'est lui qui va nationaliser, on peut dire, la lutte du Larzac en organisant la grande marche sur le Larzac en 1973, avec ce discours où il explique que les paysans ne seront plus jamais des Versaillais.
Cette terre fait bien plus que le décor de notre histoire. Elle en est sa matière première, aimée, habitée, cultivée. Relevée à l'exposition de l'écomusée du Larzac à la Jasse, cette parole illustre bien ce que fut et ce qu'est le Larzac, cette longue lutte paysanne de 10 ans, et ce pays, ce patrimoine, devenu le symbole de la vie et de l'enracinement à une terre.
Et c'est Bernard Lambert qui va dénoncer aussi en 80 le scandale du veau aux hormones et plus globalement le productivisme agricole. Et il crée en 86 la Confédération paysanne. Voilà. Et donc là, on a une autre branche de ces paysans de l'après-guerre élevés dans le contexte de la démocratie chrétienne et dont certains ont adhéré au projet commissariat général au plan Jean Monnet, et puis après le gaullisme, l'impératif industriel de Georges Pompidou, et puis d'autres minoritaires qui vont orienter cette défense de la paysannerie dans un sens qui annonce l'écologie.
Donc Gilles Richard, certaines personnalités issues de ce monde, de cette organisation agricole, Bernard Lambert, vous nous en avez parlé, découvre finalement l'impératif écologiste, même s'il ne le prononçait pas comme ça peut-être dans les années 60, mais c'est la nouvelle phase qui s'ouvre et qui aujourd'hui est en conflit avec l'agriculture à l'ancienne. Et d'ailleurs, on reparle, vous nous parliez des betteraviers tout à l'heure, et aujourd'hui c'est dans l'actualité avec le glyphosate.
Exactement, c'est le fer de lance de l'agriculture industrielle, le monde des betteraviers. Et la betterave à sucre implique les usines. Si vous avez vu dans des paysages
les intrants,
à quoi ressemble une usine de sucre,
c'est immense.
Une usine impressionnante à chaque fois. On est dans le paysage industriel dans toute sa splendeur. Non, je pense que là où les choses basculent, c'est quand Edgar Pisani dit qu'on peut boire du lait rouge et manger des pommes de terre carrées. On atteint la limite de ce progressisme qui finit par tourner à vide ou tourner à la folie et qui va provoquer des réactions assez vite. C'est en 71 que Georges Pompidou crée un nouveau ministère, le ministère de l'Environnement. On commence à se rendre compte que ça ne va peut-être pas être totalement tenable éternellement. C'est le moment justement où émerge aussi l'écologie politique. Elle se structure sur la base d'associations de défense de la nature, d'associations de pêcheurs qui voient que leurs rivières se vident de leurs poissons. Et puis l'inquiétude qui naît devant les naufrages de pétroliers, les marées noires qui sont absolument spectaculaires et catastrophiques. Il y a petit à petit une prise de conscience que ce progrès industriel n'est plus forcément un progrès, mais devient catastrophique et mortifère. Voilà. Alors, ce n'est pas une prise de conscience généralisée. Car du côté du capitalisme, on a des solutions, naturellement. D'abord, on délocalise dans les pays où les gens, les petites natures qui ne supportent pas ça, ne peuvent pas voir ce qui se passe. Deuxième réponse, c'est la réponse technologique, puisque le progrès technique peut répondre aux problèmes créés par l'industrie en faisant plus d'industrie. La disparition des abeilles fait qu'il y a des entreprises qui cherchent à inventer des mini-robots qui vont aller polliniser les fleurs et on pourra faire du profit avec ces mini-robots qu'on vendra, alors que les abeilles, elles, n'en rapportent rien. Ouais. Et c'est ça, c'est les deux réponses qui convainquent un certain nombre d'individus. Tout le monde n'est pas écologiste aujourd'hui. Mais il y a une nouvelle famille politique qui est née fin des années 60, début des années 70, la famille de l'écologie politique, alors que la famille des agrariens, elle a disparu, faute de paysans, puisqu'ils ont tous été quasiment mangés par l'industrialisation de l'agriculture.
Est-ce qu'on peut dire, Gilles Richard, que les agrariens, à leur façon, et les écologistes, à leur façon aussi, prétendent que l'organisation du monde agricole peut être une sorte de modèle de maître étalon de la vie sociale? C'est ce que prétendaient les agrariens en voulant garder l'ordre ancien, et quelques écologistes en parlant de circuits courts, en changeant de mode de vie, offrent aussi ce qu'ils veulent présenter comme un exemple de vie future et d'organisation sociale future.
L'agriculture peut... avec vous, mais ce n'est pas le même modèle.
Pas du tout le même modèle, mais ce qui est intéressant, voilà, c'est que l'agriculture peut proposer, en tout cas ceux qui s'intéressent à la politique agricole et à la politique et à l'agriculture, peut proposer un maître étalon.
Ah oui, et d'ailleurs, je crois que on peut dire que la Confédération paysanne, qui défend une agriculture paysanne et familiale, et qui dit qu'on pourrait multiplier par 4 le nombre de paysans en France aujourd'hui.
Et nourrir beaucoup plus de monde.
Et nourrir en même temps beaucoup plus de monde en polluant beaucoup moins. C'est un modèle de société. C'est une société telle que l'ont rêvé les rousseauistes et ensuite les radicaux socialistes à l'heure de leur splendeur. Une société qui n'est pas capitaliste, mais une société de petits propriétaires indépendants.
Voilà, c'est la fin de cette émission et on n'écoutera plus ces débats qui opposent le vrai rural à l'urbain hors sol de la même façon. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.